très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas le moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène,
l'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la plus belle.
Passé de 0,2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info, la séquence séance d'information de Radio Canu, tous les jours de la semaine ou presque de 19h à 20h. L'équipe du jeudi, c'est Delphine qui est en train de boire.
Oui, bonsoir à tous et toutes.
Et Laurent, donc on va faire un petit tour de l'actualité, parler d'exil, de médecine, de peine de mort, de dictature, d'écologie, d'escrocs, de menteurs, de corrida, enfin de choses comme ça, tout au long de cette heure d'émission. Et puis dans une heure, vous retrouverez la petite cuillère. Exactement. Émission contre les prisons. Donc c'est toi qui ouvres.
Alors je vais vous parler d'exil pour commencer cette émission. Faut bien se rendre compte quand même que les gens qui arrivent en ce moment ou qui tentent d'arriver sur les côtes européennes et françaises ne sont pas simplement des migrants, ce sont des exilés. Non, mais parce qu'on a trop facilement envie de dire qu'ils sont là pour des raisons économiques. Bah, peut-être. Mmh. Et mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont là parce qu'il y a une nécessité à fuir un territoire en guerre et avec une dictature. Enfin, il y a plein de raisons qui amènent des personnes à se déplacer contre leur gré. Et puis, il y a des gens qui cherchent effectivement une vie meilleure économiquement ailleurs ou aussi au niveau social, tout simplement parce qu'il y a des restrictions et des discriminations dans leur pays. Alors, tout ça pour dire que samedi, si vous aimez l'électro et la techno, vous pouvez vous rendre à une soirée de solidarité à Ground Zero. C'est un des lieux qu'on n'a pas parlé à la fois, mais on parle essentiellement de jazz, sur lequel on peut avoir des concerts pas chers. Voilà, c'est pour le dire, c'est aussi un lieu alternatif. Donc, ce sera un concert dit à prix libre et conscient. Donc, voilà, si vous avez des sous, vous pouvez donner un peu. Si vous en avez un peu moins, vous donnez un peu moins. Voilà, c'est un peu le principe de ce prix libre et conscient. Il s'agit de la rituelle Techno for Refugee. C'est une soirée donc de solidarité. Pour les mineurs isolés de Lyon, mais pas que. Hein, c'est aussi un moyen de remettre en avant la situation des personnes qui aujourd'hui sont encore une fois réprimées par le gouvernement. Monsieur Darmanin demandant qu'il y ait toujours plus d'expulsions, c'est sa position actuelle. Hein, il faut tenter de virer tous ces gens qui veulent débarquer.
Et d'empêcher de les arriver, d'arriver.
Et puis après, il faut évidemment savoir s'en débarrasser le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est évidemment une soirée musicale. Il faut aimer l'électro et la techno. Puis après, si vous avez juste envie d'être avec des amis, c'est aussi un moment de rendez-vous. Il y aura du son entre 21h et 5h du matin. Donc c'est vraiment toute une nuit. Hein, voilà. Donc vous pouvez faire que passer ou vraiment y rester.
Et Grande Zéro, c'est où?
Et c'est oulala au fin fond de Villeurbanne pour moi, mais au terminus... tout près de Villeurbanne pour d'autres, donc c'est bien aussi.
Voilà, au terminus du métro Lassois, là, c'est ça.
Ouais, exactement. Enfin, derrière, voilà, il faut longer la route derrière le centre commercial. Mais c'est aussi donner suite à ce qui se passe, hein, en particulier dans le quartier de la Croix-Rousse, hein, sur ce plateau où il y a eu pas mal de personnes qui se sont investies pour tenter de trouver des logements, des abris à des mineurs à la rue. Des mineurs, évidemment, migrants et migrantes, hein, et en particulier, ce sont souvent des garçons, quand même. Voilà, donc, l'idée, c'est de poursuivre ce qui se fait et de donner un autre rythme, sans jeu de mots, mais en tout cas, là, un rythme musical, à toute cette solidarité qui se met en branle un petit peu à chaque fois. Et puis, c'est vous... l'occasion de parler d'actualité, hein, sur ce sujet, sur ce qui a fait un petit peu du bruit, hein, dans la presse cette semaine, enfin... Je dis un peu parce que je trouve que c'est tellement scandaleux tout ça, que ça devrait en faire beaucoup plus. Vous vous souvenez certainement, peut-être qu'on a oublié parce que malheureusement il y a tellement de malheurs en mer, que les décès se succèdent honteusement. Mais c'est vrai que le 24 novembre 2021, il y a 27 corps qui avaient été repêchés dans la Manche. Vous vous souvenez qu'on n'avait trouvé que deux survivants sur ces passagers kurdes, éthiopiens et afghans, hommes, femmes et enfants, adolescents. C'était un naufrage qui est survenu dans des circonstances dramatiques, mais qui le sont d'autant plus à l'écoute des enregistrements qui ont été dévoilés par la presse. Donc le Canard enchaîné, Le Monde et l'enquête de la cellule d'enquête, excusez-moi, de France Info, qui ont donc écouté les enregistrements de ces personnes sur ce canoë, qui ont appelé à l'aide
et qui ont appelé mais des
18 fois,
des dizaines de fois quoi. C'est
alors des dizaines,
incroyable.
18 fois. Alors on sait qu'il y a 40 000 personnes à peu près. On sait. En tout cas, ce sont des chiffres qui sont aujourd'hui donnés, qui auraient tenté de rejoindre l'Angleterre, donc à partir de la France ou de la Belgique. Ça fait beaucoup de personnes, hein, quand même, qui essayent de traverser au risque de leur vie, quand même. Hein. C'est quand même assez important. On peut dire qu'aujourd'hui, on sait que donc les services français et britanniques ne font rien pour aider ces personnes. C'est pas nouveau, vous allez me dire, mais là, quand même, quand la presse commence à être indigné, je pense que là on est au-delà de l'indignation. C'est donc le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritime qui est concerné, puisqu'avec ces révélations et ces écoutes donc de la presse, on apprend donc que non seulement personne n'a rien fait, mais qu'en plus on a des gens qui, à l'écoute de ces personnes en difficulté sur ce canoë, se sont fait envoyer chier, excusez-moi de ce vocabulaire. C'est donc dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, les personnes sur ce canoë ont appelé 18 fois les secours français, soit donc le numéro du CROSS, hein, donc le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Maritime, qui dépendent de la préfecture maritime, soit le SAMU qui transfère en fait les appels au CROSS directement. Il faut savoir que les personnes sur le canoë ont envoyé des géolocalisations au CROSS, donc
oui, ils se servent d'une application là pour
voilà,
le faire.
Voilà, donc qui est utile, hein, mais qui a été complètement ignorée.
Ouais, alors pas tant que ça, parce qu'en fait, l'excuse du CROSS, c'est parce qu'en fait, ils étaient à la limite, grâce à la localisation, ils savaient qu'ils étaient à la limite des eaux territoriales anglaises. Et donc, a priori, le CROSS a laissé couler en disant ils vont aller en Angleterre, c'est les Anglais qui vont faire.
Alors, quand je dis qu'il a été ignoré, il n'a pas été ignoré dans le sens que personne n'a reçu ses appels, mais il a été ignoré, c'est-à-dire qu'on a fait comme si ses appels n'avaient pas été réceptionnés et ses géolocalisations transmises. C'est-à-dire qu'effectivement, a priori, du côté français, on a laissé faire en se disant non, mais à un moment, ils vont arrêter dans les eaux, dans les eaux qui ne seront plus chez nous.
En fait, ils ont trouvé une excuse. En fait, c'est vraiment l'excuse. Quand ils ont vu où ils étaient, ils se sont servis de cette excuse, faut appeler les Anglais, ils l'auront même dit, hein, faut appeler les Anglais, c'est plus nous. Hein. Donc, les secours français étaient beaucoup plus près en fait que les Anglais, malgré l'arrivée dans les eaux territoriales anglaises.
Alors, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est d'être obligé de se dire que ah non mais là t'as passé d'un mètre la frontière, c'est plus notre problème. C'est déjà pour moi un scandale, excusez-moi. Mais donc entre 1h48 et 4h22, on a des gens désespérés qu'on cherchait à recevoir de l'aide et qui n'en ont reçu ni du côté britannique ni du côté français.
Donc il y a des actions en justice parce que ces gens ils sont responsables de la mort quand même.
Alors,
de ces personnes.
Il y a une enquête qui est ouverte, excuse-moi, hein, mais voilà, il y a une enquête judiciaire en cours. Ce qui est bien, c'est que du coup on apprend des choses du secrétaire d'État chargé de la mer. Moi je trouve ça bizarre que ce soit pas la première ministre ou le ministre de l'Intérieur, voyez, qui soit saisi d'une affaire aussi grave, puisque Monsieur Darmanin n'arrête pas de se saisir de ces problématiques de l'immigration, hein, puisque pour lui c'est une problématique. Donc on se demande pourquoi c'est pas lui qui est saisi tout de suite de cette affaire. Mais non, on laisse ça au secrétaire d'État chargé de la mer. C'est tellement mieux. Hein. C'est vrai, quand on s'y noie, c'est tellement bien. Donc il y a une enquête judiciaire, effectivement, comme tu disais, qui est en cours. Mais ce qui est aussi noté par ces médias qui ont relancé ce scandale, c'est aussi qu'on a les écoutes de cette opératrice du côté français qui a été extrêmement insultante, non, raciste.
C'est l'enfer, c'est l'horreur.
Et qui a donc dit qu'elle, enfin.
Ah, ils les ont. Ouais.
Elle a dit quand même à un moment, je cite, ah bah t'entends pas, tu seras pas sauvé. C'est quand même ce qu'elle a expliqué à la personne qu'elle avait au bout du fil, qui ne comprenait pas bien a priori ce qu'elle était en train de lui expliquer. Et donc globalement, elle lui explique qu'elle en a rien à foutre et que personne ne viendra les sauver.
Donc voilà.
Enfin, faut quand même entendre le désespoir de ces gens, quoi.
Cette personne et les autres les ont laissés mourir. Donc c'est un truc vraiment incroyable. Leur rôle, c'est de sauver des gens et ils ont volontairement rien fait. Quand tu lis toutes les témoignages, toutes les bouts d'écoute, tu comprends pas ce qui s'est passé. Hein. Tu dis c'est, voilà, ils sont tous darmanistes ou adhérents au Rassemblement National, ces gens du secours en mer, quoi.
Alors on a eu effectivement cette affaire de l'Ocean Viking, qui est pas la première fois où on laisse pourrir des gens, crever des gens sur un bateau, hein, avec en expliquant que ouais mais SOS Méditerranée, vous faites venir les gens chez nous, on n'en veut pas, les États européens se reportent ces exilés en se disant on s'en fiche, y a pas de souci, mais pourquoi vous les voulez pas, prenez-les, voilà. Donc on a eu là ces derniers jours dans l'actualité le suivi donc de ce bateau Ocean Viking avec des gens qu'on a laissé quand même crever hein, à l'intérieur, dans des situations humaines absolument catastrophiques. Donc, on a finalement un bateau qui a pu amarrer, trouver un port d'attache. On apprend déjà assez rapidement que certains et certaines de ces exilés vont devoir repartir aussi vite. C'est-à-dire, on les renvoie directement. Alors là, par contre, on est très très occupé et très très près de savoir exactement on sait bien faire, par contre, pour envoyer les gens chez eux. Chez elle, on sait pas bien où, des fois, d'ailleurs. Donc voilà. Et puis, il y a effectivement ces exilés mineurs dont la France ne veut surtout pas, parce que ça, quand même, elle a des obligations légales et elle doit s'en occuper. Elle ne s'en occupe pas, bien évidemment. Puisque, regardez, on n'arrive même pas à loger des mineurs sur le quartier de la radio. Alors, on a appris, et moi, je trouve ça triste, je vous le dis, parce que on pourrait se dire, ouais, c'est chouette. Oui, c'est chouette. Mais non, c'est pas bien. On a appris que, donc, sur les 44 mineurs qui étaient donc sur l'Ocean Viking, 26 se sont déjà barrés, ont fugué des centres qui les accueillaient. C'est pas une bonne nouvelle, ça veut dire qu'aujourd'hui on a quand même des mineurs qui ne font tellement pas confiance à un système, qui préfèrent s'en aller par eux-mêmes, trouver des situations. Alors, du côté, par exemple, du conseil départemental du Var, Monsieur Masson, président LR, dit... Non, mais tout de suite, ils ont dû déjà quitter la France parce que ce qu'ils voulaient, c'était rejoindre, justement, par exemple, la Grande-Bretagne. Bon, c'est une vision des choses, mais ça veut dire qu'on a quand même aujourd'hui de jeunes gens qui préfèrent fuir, se retrouver quand même dans une situation dramatique dans la rue pour pouvoir se déplacer eux-mêmes, plutôt que de faire confiance à un État français qui pourrait peut-être les loger, les nourrir pendant quelques temps, quitte à leur trouver des solutions. Enfin, moi, je trouve ça dramatique d'être obligé de fuguer, après avoir vécu sur ce bateau quand même une situation catastrophique humanitaire. Ouais. Voilà, donc dès le lendemain, il y en avait déjà trois qui s'étaient barrés. Moi, je trouve ça terrible. Alors, on leur souhaite évidemment bon vent de trouver la famille qu'ils attendent de l'autre côté de la Manche, de retrouver des proches. Mais moi, je trouve ça quand même extrêmement triste de voir des jeunes ne pas pouvoir faire confiance à un État français, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette situation. Alors, bien pénible, je trouve, parce que chaque jour, on a des situations humaines extrêmement compliquées et que chaque jour, on ne pourrait faire des émissions que sur ce sujet.
Ouais. J'ai découvert un truc aujourd'hui. Pourtant, l'info, elle date un peu, mais elle n'était pas arrivée jusqu'à moi. Un truc sur l'Association Médicale Mondiale, donc, qui réunit un peu toutes les instances des médecins de tous les pays. Et ils ont fait une réunion et ils ont, une assemblée générale, très exactement, c'est une organisation internationale de médecins. C'était entre le 5 et le 8 octobre dernier, c'était à Berlin en Allemagne. Et ils ont révisé leur déclaration sur les soins médicaux de fin de vie. On se dit, c'est des médecins, ils sont ouverts, ils connaissent la souffrance des patients. De quoi ils vont nous parler? Eh ben, ils vont nous parler qu'en fait, officiellement, cette association mondiale est contre l'euthanasie et contre, donc, du coup, aussi le suicide médicalement assisté. Donc, ils vont plus loin, hein, ils font des rapports, des notes et ils encouragent officiellement les gouvernements, les instituts de recherche à faire des choses bien, par exemple, à investir davantage dans l'élaboration de traitements visant à améliorer les soins en fin de vie. On se dit, ouais, c'est pas mal, d'améliorer les traitements, etc. Et surtout, de s'opposer aux décisions politiques qui pourraient amener au développement de l'euthanasie. Parce que, alors, il y a un petit truc qui fait penser, qui fait comprendre d'où ça vient, puisque je cite, ils disent qu'on doit tenir compte, alors je cite, des aspects physiques, psychologiques, sociaux et spirituels. Des patients donc liés aux maladies incurables, etc. Donc on sent bien dans cette instance de gens. Alors on classe toujours les médecins dans des scientifiques, dans les professions scientifiques. En fait, c'est plus compliqué que ça en termes de science. C'est pas ils font partie d'un domaine scientifique, mais la majorité des médecins sont difficilement qualifiables de scientifiques et encore moins de chercheurs. Ce sont des gens qui ont appris des choses et qui les appliquent. C'est des techniciens de la guérison, je les appellerai. Je sais, c'est méprisant, mais c'est ce que je pense. Et du coup, on a chez ces médecins plein de gourous qui apparaissent, défenseurs de l'homéopathie, de la naturopathie, de toutes ces escroqueries-là, parce que ils n'ont pas acquis les méthodes scientifiques, ils ont juste appris des données. Et on voit réapparaître l'influence des religions, des pratiques irrationnelles au sein de cette association médicale mondiale. Alors bien évidemment, ça représente un compromis de l'ensemble de la planète. On sait très bien qu'il y a des pays, qui n'est pas le cas de la France, mais il y a des pays qui sont bien en avance sur ça. On pense à la Suisse, à la Belgique. Mais c'est juste pour montrer que cet assaut, cette structure mondiale autonome des médecins est encore ouvertement réactionnaire sur ces domaines-là, sur la fin de vie notamment. Et puis, on parle de fin de vie, on va parler d'une fin de vie ultra-violente qui s'appelle la peine de mort. Alors j'en parle, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de point sur la peine de mort. C'est déprimant à chaque fois qu'on fait un point sur la peine de mort. Mais en ce moment, il y a le 8e congrès mondial contre la peine de mort qui est organisé par deux structures, alors celle qu'on connaît bien, Ensemble contre la peine de mort et Coalition mondiale contre la peine de mort. Ils sont réunis à Berlin. Ça a commencé il y a quelques jours, le 15 novembre, et ça se termine demain. C'est parrainé par des pays abolitionnistes, la France, la Suisse, l'Allemagne forcément, et le Parlement européen, donc l'Union européenne officiellement. Il y a un millier de participants à peu près, qui viennent de 90 pays, et qui vont, pendant 4 jours, qui ont d'ailleurs, parce que c'est bientôt fini, pendant 4 jours, parler, discuter, échanger, donc entre des gens qui sont soit des politiques, des activistes, il y a pas mal d'avocats, des citoyens, des citoyennes bien sûr, échanger autour de la lutte contre la peine de mort, puisque la peine de mort est encore présente. D'ailleurs, ils arrivent quand même avec quelques bonnes nouvelles, notamment concernant le continent africain, puisque cette année, en un an, en tout cas, trois pays ont aboli l'application de la peine de mort. En octobre 2021, c'était la Sierra Leone. En juin 2022, c'était la République centrafricaine. Et très récemment, c'est la Guinée équatoriale qui s'est dotée d'un nouveau code pénal qui abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun. Donc voilà, il y a des progrès. Mais en même temps, il y a des mauvaises nouvelles. C'est le triste, hein, c'est la peine de mort, c'est souvent ça. Par exemple, 7 personnes, dont 2 femmes, ont été exécutées hier, donc c'est tout chaud, tout récent, au Koweït. Alors, alors on a l'explication, hein, le ministère public du Koweït, hein, a déclaré dans un communiqué que l'exécution avait été menée par pendaison, c'est pas barbare du tout, après avoir été approuvé par l'émir du pays. Alors c'est un peu compliqué, le Koweït, il y a un parlement qui est relativement autonome pour un régime totalitaire, je crois que c'est peut-être le régime totalitaire dans le monde qui est le moins totalitaire, puisque le parlement a énormément de pouvoir, enfin a plus de pouvoir, énormément en proportion du pays, enfin par rapport au fait que c'est une famille régnante qui est là depuis 2 siècles et demi. Hein. C'est, tout est relatif, bien évidemment, on n'est pas dans une démocratie directe non plus, hein. Faut pas exagérer. Donc voilà. Alors ils ont assassiné, donc l'État a assassiné 2 femmes, donc une Koweïtienne, une Éthiopienne, et 5 hommes, 3 Koweïtiens, un Syrien et un Pakistanais. Alors c'est les premières exécutions depuis 2017. En 2017, ils avaient pendu 7 personnes, dont un membre de la famille régnante, ce qui laisse entendre, bien comprendre que il y a une certaine autonomie de la justice et du Parlement quand même, hein, pour condamner des membres de la famille régnante à mort. Hein, ça peut être impressionnant sur ce côté-là. Bon, en termes de liberté, de démocratie, c'est pas ça non plus. Hein, la preuve, 7 personnes assassinées par l'État koweïtien aujourd'hui. Alors, il y a eu des réactions. Amnesty International a appelé, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a des exécutions dans tous les pays, a appelé à l'arrêt de la peine de mort, qualifiant cela de peine cruelle, inhumaine et dégradante. Alors elle est revenue dans les années 60, hein, la peine de mort, essentiellement contre des meurtriers, des trafiquants de drogue. Bon, voilà, ça s'améliore pas, mais bon, ils assassinent pas tant que ça non plus. Tout est relatif par rapport à des pays comme la Chine, mais il y a quand même de quoi faire. Il y a des pressions à mettre pour que le Koweït sorte de cette barbarie là. Surtout que les suspects n'ont pas toujours quand même des procès dignes de ce nom. En tout cas en termes de référence internationale. Donc c'est encore moins difficile de défendre la peine de mort quand le procès n'a pas été équitable. De toute façon, c'est pas défendable non plus, même quand le procès est équitable, on le rappelle. Alors, il y a eu des réactions aussi de certains pays. La France y va de ses communiqués aussi. La France n'est pas toujours un pays pourri dans les réactions. Des fois, il y a des réactions positives. Donc, des services des ministères des Affaires étrangères qui ont condamné la peine de mort, les 7 exécutions et la peine de mort en général, en rappelant que la France était engagée contre la peine de mort et pour l'abolition universelle de ce châtiment injuste, inhumain et inefficace. Donc voilà, pour une fois qu'on dit du bien d'un ministère, voilà, vous le noterez dans vos tablettes, c'est pas tous les jours. Alors, la peine de mort est assez répandue dans cette région du Golfe. Hein. On pense à l'Iran, on va en parler après, à l'Arabie Saoudite. Alors, l'Arabie Saoudite, l'année dernière, en une seule journée, ils avaient assassiné 81 personnes. Donc, officiellement, par la peine de mort. Donc, voilà. Alors, on va aller ailleurs, dans une des deux démocraties qui pratiquent la peine de mort. C'est le Japon, qui pratique encore la peine de mort, et les États-Unis d'Amérique, puisque hier ont été tués par 2 États américains, donc 2 condamnés à mort. Il y a Murray Hooper, un Afro-Américain de 76 ans, donc par injection létale. C'était dans le pénitencier de Florence, en Arizona. Alors c'est le ministre de la Justice de l'État d'Arizona, Mark Brundage, qui se justifie, qui explique, je cite, « Pour les crimes les plus vils, nous ne devons jamais oublier les victimes ni renoncer à rendre justice. » Donc pour lui, rendre justice, c'est se venger. Il est un peu oi poi dent pour dent, hein, le truc horrible qu'on trouve dans certains textes religieux. Voilà. Et ce qu'il oublie de dire, c'est que la personne a été restée 40 ans dans le couloir de la mort, 40 ans à être jamais sûr de quoi que ce soit. On est dans ce qu'on appelle de la torture psychologique. Alors du coup, voilà, la justice, elle a bon dos. Alors aux États-Unis, c'est assez court, hein, qu'il y ait beaucoup de temps entre les condamnations et l'exécution des peines, pour plein de raisons. Une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup de recours. Et puis d'autres raisons, c'est qu'ils aiment bien faire souffrir psychologiquement, je pense, les détenus. Par exemple, fin 2020, 1/4 des personnes détenues dans les couloirs de la mort aux États-Unis, 25%, ont plus de 60 ans alors que leurs peines ont été prononcées, ils étaient jeunes. Hein, bon, ça situe un peu les choses. Donc la deuxième exécution, c'est hier soir. En fait, jusqu'en fin d'après-midi hier, ils ne savaient pas s'ils allaient l'assassiner. Et finalement, l'État du Texas l'a tué. C'est Stephen Barbie, 55 ans, lui aussi par injection létale. Donc lui, il avait été condamné plus récemment, en 2006, pour meurtre. Il avait reconnu les faits dans un premier temps, puis après, il s'était rétracté. Il avait dit qu'il avait été contraint par la police. On s'en fout de quoi il a été condamné, mais c'est quand même pour rappeler les circonstances. Donc depuis sa condamnation, lui par contre, il s'est beaucoup battu pour essayer d'obtenir une suspension, une révision. Il avait déjà obtenu donc deux sursis, et le dernier qui était attendu, qui avait été demandé mardi par ses avocats, donc auprès de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, n'a pas marché, puisque hier soir, ils ont décidé d'exécuter cette peine, et donc l'État l'a tué, se condamner. Donc voilà. Alors ils ont failli hésiter. Pourquoi ? Parce que c'est un des rares trucs qui permet des fois de ralentir l'action du bourreau, voire de l'anéantir. C'est quand il y a une question de religion en jeu. On rappelle, hein, le Texas, c'est un pays plutôt conservateur, très proche de la religion. Et lui, il avait dit que ses droits religieux n'avaient pas été respectés. Et ça avait quand même ralenti le système. C'est l'incohérence et l'horreur du truc aux États-Unis, du système judiciaire de la peine de mort aux États-Unis. Mais bon, ça n'a pas joué tant que ça pour lui, puisque au final, il a été tué. Et puis, on va faire un petit tour en Iran très rapidement, puisque les condamnations tombent. Trois personnes ont été à nouveau condamnées à mort hier en Iran pour des participations à cette rébellion, cette quasi début de révolution qu'il y a en Iran depuis la mort ou l'assassinat de Mahsa Amini par la police des mœurs iranienne. Donc voilà, il y avait déjà eu le week-end dernier deux personnes qui avaient été condamnées à mort. Donc on est à 5 pour l'instant, il y en a beaucoup plus, des dizaines, des milliers qui risquent la peine de mort, qui sont dans les geôles iraniennes. Mais la contestation, elle continue un peu partout, dans des petites villes, dans des grosses villes. Alors beaucoup, forcément, dans les régions frontalières avec l'Irak, là où il y a majoritairement des Kurdes, qui sont en résistance, hein, de toute façon, depuis très longtemps, aussi bien contre l'Irak que contre l'Iran. Et puis bon, la jeune femme qui a été tuée par la flicaille, elle était kurde en plus, donc ça les mobilise encore plus. Il y a des villes où voilà, la police arrive et elle tire sur tout le monde, hein. À Izeh, une ville du sud-ouest de l'Iran, 7 personnes ont été tuées par balle directement dans la rue. Donc là on a 5 condamnés à mort, mais on a quand même 7 personnes il y a quelques jours qui ont été tuées par la police, ce qui revient à de la condamnation à mort, mais sans passer par la justice iranienne. Ça va plus vite, et ça, les flics du monde entier savent faire, même dans les pays qui ont abandonné la peine de mort. Donc voilà, ça bouge toujours en Iran, et ça condamne aussi fortement cette début de révolution contre le régime religieux et les mollahs. Il y a une nouvelle mobilisation à Lyon samedi 19 novembre. On sera à 15h, place Bellecour. Voilà pour cette rubrique peine de mort.
Alors, on va... Excusez-moi, je m'absente du micro pendant 5 secondes. Nous allons parler de la Birmanie maintenant. Vous avez peut-être entendu que la junte militaire qui a pris le pouvoir, hein, je vous rappelle, c'était en février 2021, a décidé de libérer 5774 personnes.
C'est beaucoup ?
C'est beaucoup, ouais, parce qu'il y a quelques temps, elle avait annoncé 700, puis finalement, vous voyez, on est passé à 5774. C'est un geste de propagande, je dirais peut-être. Alors, il y a effectivement un certain nombre de Birmanes qui ont été libérés, des parlementaires, des gouverneurs, des cadres de l'administration. Mais il y a aussi des étrangers qui sont libérés. Alors, je vous parle des étrangers, ça ne veut pas dire que la valeur des Birmans et des Birmanes qui ont été libérés est moins importante. Simplement, le fait qu'il y ait des étrangers aient été arrêtés, emprisonnés et condamnés est assez symptomatique de ce qui est en train de se passer en Birmanie en termes de droits humains. Donc, pour les Birmans et les Birmanes, il y avait incitation à l'insurrection, diffusion de fausses nouvelles, troubles à l'ordre public, c'est-à-dire tout un tas de raisons absolument nulles pour mettre les gens derrière les barreaux et les condamner. Et du côté donc des étrangers, on a par exemple Vicky Bowman, ancienne ambassadrice britannique avec son mari birman, qui avait été arrêté pour avoir enfreint les lois d'immigration. Hein, c'est voilà. Donc tous les deux avaient pris un an. Donc là, ils ont été libérés. Alors il faut savoir que tout de suite, ces étrangers sont libérés et expulsés. Hein, c'est l'idée. On avait aussi un proche qui avait travaillé comme conseiller dans Ngousikil. Il était professeur d'économie ami, il est australien, il s'appelle Sean Turnell, qui donc lui bah était trop proche hein, de cette ancienne chef d'État birmane. Lui, il avait été condamné à 3 ans de prison pour violation de la loi sur les secrets officiels. Il a donc été aussi libéré. Et puis, quelqu'un qui a été libéré d'une manière beaucoup plus... alors là, c'est un symbole plus important. Et puis, c'est important, il s'agit de Toru Kubata, journaliste qui avait été arrêté alors qu'il suivait une manifestation anti-junte à Rangoon. Lui, il avait été condamné à 10 ans d'emprisonnement. Quand même pour faire son travail. Hein. C'est... Donc là, on sentait bien qu'il y avait quand même une volonté de la junte militaire de vouloir faire taire les journalistes, et en particulier les journalistes étrangers. Donc il a été libéré. Mais quand je vous parle des journalistes, il faut savoir qu'il y a beaucoup de journalistes birmans et birmanes qui ont été arrêtés. Depuis février 2021, on parle de 170 journalistes birmans et étrangers qui ont été arrêtés. Il y aurait encore 70 journalistes toujours emprisonné actuellement, ce qui est énorme, hein, il faut se rendre compte quand même de ça. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ces 5774 personnes libérées, mais on a appris que, par exemple, il y a un chanteur de reggae qui a été libéré et il a été réarrêté. Donc on se demande si finalement, une fois que nous n'aurons pas parlé justement de ces étrangers qui ont été libérés, ces Birmans et ces Birmanes qui étaient dans l'opposition, qui le sont certainement toujours, ne vont pas être réarrêtés derrière. Donc ça c'est un vrai souci hein, pour les organisations des droits humains. Donc on... Il y a une réalité. Et donc, on a, vous savez, hein, depuis février 2021, des groupes qui se sont montés, certains armés, qui aujourd'hui vivent la répression militaire, bien évidemment, même quand ils ne sont pas armés. La junte dit que c'est des terroristes. Ce qu'on a appris, alors, c'est pas très clair sur le nombre exactement encore arrivé, hein. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que il y a des avions de combat Sukhoi, des sous-30 pour ceux que ça intéresse et celles que ça intéresse qui sont arrivés. Alors ça date d'une commande qui remonte à 2018 hein, c'est-à-dire c'est pas la junte là qui les a commandés hein, c'est bien avant que ça avait été commandé donc c'est 6 avions alors vous allez me dire ouais, il y a plein de gens qui commandent des avions, mais pour la junte militaire ils sont d'autant plus importants, ces avions qui avaient été commandés avant février 2021, ce sont des avions russes, ce qui fait que la junte a tout de suite dit que l'invasion de l'Ukraine par la Russie était tout à fait justifiée, ce qui lui a permis de continuer à recevoir ses avions. Hein.
Enfin, entre dictateurs. Hein,
ouais, alors ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait. On est sûr qu'il y a un avion qui est arrivé. A priori, les autres sont. Soit déjà, il y en a déjà 4 en tout qui seraient sur place, soit peut-être que les 6 soient arrivés. Mais d'après les médias dans le coin par là-bas, il y aura en tout cas des formateurs russes qui accompagnent l'arrivée de ces avions. Hein, ça n'arrive pas tout seul. Dans une petite boîte, non, ça arrive aussi avec des êtres humains qui vous expliquent comment vous en servir. Alors pourquoi ces avions de combat sont important pour cette junte, c'est qu'elle s'en sert pour des frappes aériennes. Oui, puisque par exemple, le 23 octobre dernier, il y avait un groupe qui s'appelle l'armée de l'indépendance Kachin, qui est un groupe de rebelles ou de résistance, hein, ou de terroristes, selon comment on se place du côté de la junte ou des autres, qui organisait un concert. Hein, donc c'est un groupe qui se situe dans le nord du pays. La junte a fait des frappes aériennes, donc voilà à quoi servent. Alors beaucoup d'hélicoptères utilisés par la junte militaire, mais aussi donc des avions qui vont être fort utiles, ma foi, pour aller donc canarder ces groupes rebelles et résistants, dits terroristes par la junte à travers le pays. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait eu au moins une 50aine de morts et 70 blessés. C'est les chiffres qu'on avait, mais ils sont a priori peut-être un peu minorés. Pour la junte, ben, c'est que des rumeurs. Voilà, on sait qu'il y a quand même eu depuis février 2021 plus de 2300 civils qui ont été tués hein, par les forces de sécurité. Voilà, ça se passe pas super bien en Birmanie.
Non, c'est à moi.
Oui.
Attends, tu m'as mis dans un autre ordre, il faut que j'inverse mes feuilles.
Ouais.
Alors je vais parler du coup de capitalisme.
Ouais.
C'est de ça dont il est question.
Et dictature.
Et bah oui, alors c'est pas loin de la Birmanie.
Pays autoritaire en tout cas. Voilà.
Ah non, c'est une vraie dictature, je crois. On peut faire des fois des... Toi, des... Non, mais non. On va aller en Biélorussie. On va parler d'une marque très connue dont le logo est de couleur jaune et bleu, un peu à l'image de l'Ukraine, mais rien à voir. Enfin, si, un peu à voir quand même. Une marque qui fait des meubles avec des noms un peu exotiques, du style bibliothèque Baguebo, la commode Kulen, ou le lit Brimnes, enfin, avec des noms là qui nous viennent du nord de l'Europe, puisqu'on va parler du géant de l'ameublement IKEA. Et il y a un petit truc en lien avec la guerre en Ukraine, c'est que jusqu'à maintenant, ils étaient en partie fabriqués à partir d'éléments qui venaient, ou qui viennent, parce que ça, on verra après, d'une des pires dictatures au monde, la Biélorussie. C'est quand même un régime qui est plus qu'une dictature, enfin c'est une vraie dictature, hein, la Biélorussie. Il n'y a aucune once de démocratie, de liberté de la presse, de quoi que ce soit en Biélorussie. Alors il y a eu, c'est une grosse enquête faite et révélée par Disclose, ce fameux groupe de journalistes dont on cite régulièrement dont je cite régulièrement les enquêtes. Donc une dizaine de témoignages, une analyse de beaucoup de documents comptables, dont beaucoup sont publics en fait. Donc il fallait juste faire un travail d'enquête. Ce qu'ils se sont rendu compte, c'est que IKEA travaillait avec au moins 10 fournisseurs venant de Biélorussie, dont près de la moitié de ces fournisseurs biélorusses ont collaboré avec des prisons de la dictature de la dictature actuelle, et cela sur ces 10 dernières années. Alors c'est les établissements pénitentiaires, les prisons, les colonies pénitentiaires, ça a différents noms, sont très connus dans cette dictature pour plusieurs choses. D'abord, avoir un public relativement nombreux. Il y a eu pas mal d'arrestations d'opposants, on se rappelle des révoltes il y a quelques années. Et puis aussi, ils sont connus pour des faits de torture, de privation de nourriture, de soins, etc., etc. Grosso modo, on est totalement à l'opposé des valeurs affichées officiellement par IKEA. Hein, dans son cahier des charges, IKEA dit qu'elle n'a jamais recours directement ou indirectement au travail forcé ni au travail pénitentiaire. Et pourtant, là, ça semble le cas. Alors, faut savoir qu'en fait, le grand amour, l'idylle, la relation entre IKEA et la dictature d'Alexandre Loukachenko a démarré en 1999, donc il y a plus de 20 ans. Grosso modo, c'est le deuxième fournisseur en termes de bois jusqu'à l'attaque de l'Ukraine par les Russes, après la Pologne. Donc c'est un fournisseur très important pour les meubles et pour différentes matières premières à bas coût. C'est une stratégie qui porte un nom chez IKEA qui s'appelle Go Belarus. Donc il y a un vrai truc sur la Biélorussie. Grosso modo, en 20 ans, ils ont triplé les montants d'échange et d'achat donc sur des produits venant de cette dictature. Voilà. Alors, on connaît très bien la répression du régime. On sait qu'ils sont capables de tout. On rappelle que l'année dernière, ils ont détourné un avion Ryanair pour arrêter juste un journaliste. Hein, c'était quand même un truc incroyable. Sans aucune représailles, on peut le dire, international. Juste des petites condamnations symboliques. Donc ils ont le droit de tout faire en Biélorussie. Et à l'époque, IKEA n'avait pas condamné d'ailleurs. Ils avaient bien fermé leur gueule. On sait que en 2020, il y a eu le soulèvement là, et ça a entraîné des milliers d'arrestations et donc des milliers de gens qui se retrouvent en prison. Et alors donc l'enquête de Disclose détaille tout le système de ces sortes de goulags modernes où on a des esclaves qui travaillent dans ce qu'ils appellent des fois des colonies pénales de Biélorusse. Alors ils donnent des exemples, je vais pas les citer tous, je vais en citer quelques-uns. Il y a Mogotex notamment qui est repéré. Donc c'est une entreprise qui travaille qui a un gros marché avec IKEA. Eux ils ont beaucoup travaillé avec IK15 qui est un centre de détention sur lequel il y a pas mal de témoignages qui expliquent les actes de torture de choses comme ça. Donc ça c'est vous avez plein d'exemples dans l'enquête, je détaille pas tout. Il y a aussi une autre, toujours la même Mogotex d'ailleurs, en termes de textile, qui se fournit beaucoup auprès d'une prison pour mineurs. Alors là c'est double couche, on fait travailler des mineurs qui sont en tôle, dans des conditions extrêmes. C'est le IK2, le nom de cet établissement pénitentiaire biélorusse. Donc voilà, alors là il y a eu pas mal d'infos sur ce IK2 qui sortent de différentes ONG, et IKEA n'a jamais réagi. Alors selon Disclose, au moins 6 partenaires biélorusses d'IKEA ont travaillé avec cette prison pour mineurs. Alors ils n'ont pas de preuves direct que et les témoignages vont dans ce sens-là, que les ouvriers, les prisonniers ouvriers ont travaillé pour IKEA. Par contre, ils s'en doutent. Ils se disent, on savait qu'on travaillait pour ceux qui sont sortis de prison, pour des entreprises européennes. Mais ils savent pas qui, parce que il y avait le truc IKEA était pas écrit dessus. Ils savent pas qui. Donc, par contre, c'est bien, IKEA travaille bien avec des entreprises qui travaillent avec les prisonniers biélorusses. Pourtant, IKEA avait moult fois raffirmé ses valeurs de jamais travailler avec des gens qui sont en prison, etc. Bon, ce qui n'a jamais empêché de IKEA de travailler avec une des pires dictatures de la planète, qui est la Biélorussie. C'était sorti même au sein d'IKEA par différents syndicats qui avaient demandé à ce qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait des enquêtes au sein des fournisseurs et des sous-traitants d'IKEA en Biélorussie. Bon, c'était pas allé bien loin. Voilà. Alors, on sait que c'est pas la première fois qu'IKEA a ce genre de problème. Alors, officiellement, normalement, depuis la guerre, depuis l'attaque russe en Ukraine, IKEA ne travaille plus avec la Russie et avec la Biélorussie, l'allié le plus proche de Poutine. Mais on se rappelle qu'IKEA avait déjà été condamné, puisque dans les années 80-90, ils avaient travaillé avec des prisonniers politiques de l'Allemagne de l'Est. Donc c'est une sorte de tradition dont ils n'arrivent pas à sortir malgré la propagande sur les valeurs respectueuses d'IKEA. Donc voilà. Alors c'est pas la seule grosse entreprise capitaliste à travailler avec des dictatures. On a plein d'exemples. En France, on a Total Energy qui travaille beaucoup avec des dictatures, l'Arabie Saoudite et autres. Mais ils mettent moins en avant le côté on est propre sur nous, on est beau, on est gentil, on respecte la nature, on respecte les gens, etc. IKEA, ils ont vraiment un discours de propagande correspondant pas forcément au mode de production de leurs usines.
Alors, on va parler de toute autre chose. Avant que tu nous parles de Macron et le gouvernement, nous allons parler de corrida, puisque Aymeric Caron a tenté de faire passer en commission des lois hier.
C'est qui Aymeric Caron? Il est
La France Insoumise. Ah oui. Tenté de faire passer une proposition de loi d'abolition de la corrida sur l'ensemble du territoire français. Ça n'a pas marché. Il faut le dire.
Pourtant, il y avait du soutien un peu de partout.
Alors, c'est surtout qu'en fait, il a pu s'appuyer sur des sondages qui sont censés quand même dire que les Français et les Françaises, comme on aime ou dire dans les sondages, semblaient être pour cette abolition. Il faut dire que bon, on a une nouvelle génération qui n'a pas connu non plus les vachettes d'Interville, donc il ne comprend pas bien.
Pas mis à mort.
Non, mais on utilise l'animal quand même pour faire des trucs. Hein, bon, voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu une génération qui a pu se passer de ce spectacle laborieux. Donc c'est vrai que il s'appuyait Aymeric Caron sur quand même. Comme ça, une idée que ça pouvait peut-être passer. C'est pas passé. Parce que je vous rappelle encore une fois que les députés, malheureusement, ne nous ressemblent pas. voilà. Oui, on en a encore une fois.
Ils n'ont jamais été représentatifs.
La preuve. En tout cas, toujours est-il que le problème d'Aymeric Caron, c'est qu'a priori, humainement parlant, il n'a pas l'air d'être toujours bien apprécié. Et qu'en plus de ça, il est de la France Insoumise. Ce qui a l'air de mettre des surcouches en ce moment, quand même, quand t'es à la France Insoumise et député. Il s'est fait tomber dessus par, évidemment, Renaissance, donc les macronistes, par les LR. La droite
qui reste
soutient.
Majoritairement pro corrida quand même.
Voilà. Enfin, pas tous,
même
mais
si, pas tous, oui, tout
pas
à
tous,
fait.
Pas tous, ouais. Mais le problème, c'est que même la gauche tombe dessus, puisque du côté des communistes, on sait être des traîtres à la cause animale, et oui. Que du côté du groupe socialiste, ils ont jamais réussi à se mettre d'accord, donc il y avait vote libre. Chacun et chacune faisait comme il voulait à la commission des lois. Donc, il y a un nouveau vote le 24 novembre prochain, ça sera jeudi prochain, nous pourrons donc en reparler. Ça reste un sujet laborieux, la cause animale, la chasse est un sujet laborieux, la corrida en est un autre.
Alors qu'on pensait que la corrida, on s'en débarrasserait quand même.
Il y a des petites villes qui ont arrêté, mais alors je suis tombée sur cet article publié hier sur 20minutes.fr que j'ai trouvé très intéressant ma foi, donc je le partage, qui se pose une question: peut-on encore aujourd'hui défendre la corrida? 20 minutes a posé la question, je les cite, à des aficionados qui n'ont pas prévu de baisser la garde, nous explique 20 minutes. Alors 20 minutes est allé interroger trois personnes: Dominique Valmary, président de la Fédération des sociétés taurines françaises, Corentin Carpentier, porte-parole de l'Union de la jeunesse taurine de France, et Laurent Jaoul, maire de Saint-Brest sans étiquette, une commune de l'Hérault de 3200 habitants. Alors du côté de Dominique, vous allez voir les arguments, ils sont conscients. Dominique Valmary qui veut bien reconnaître, donc, dans cet article de 20 minutes, que défendre la corrida est devenu compliqué, mais, je le cite, « Nous y parvenons. Nous avons des arguments, nous défendons une communauté culturelle, nous défendons aussi le taureau de combat et son élevage qui disparaîtrait si on supprimait la corrida, car il n'est pas économiquement profitable en matière de production de viande ou de lait. Le taureau a des conditions de vie idéales jusqu'à l'âge de 4 ans et ensuite peut démontrer ses qualités d'agressivité dans l'arène. C'est le seul herbivore qui a pour système de défense l'attaque.
Ça fait rêver.
Voilà donc son argumentation à Dominique Valmary. Et quand 20 minutes lui demande, mais quand même, la souffrance animale et la mise à mort, on la justifie comment ? Il explique, nous répondons que nous mettons en valeur le taureau jusqu'au bout de sa raison d'être. Vous avez bien entendu, la raison d'être du taureau, c'est d'être sacrifié. Donc voilà donc pour Dominique Valmary. Pour Corentin Carpentier, je vous ai donc dit, hein, porte-parole de l'Union de la jeunesse taurine de France. Il y a une autre jeunesse qui malheureusement n'a pas vu Interville, mais qui a envie quand même, qui est toujours de la corrida. Lui, il explique donc sur dans cet article de 20 minutes, évidemment encore possible aujourd'hui de défendre la corrida. On peut même être jeune aujourd'hui et défendre la corrida. Il insiste hein, sur le fait que les jeunes, ils ont bien envie de tout ça. Et qu'il explique qu'en plus, dans les territoires ruraux, bah, il n'y a pas le même débat parce que forcément hein, dans la ruralité on pense différemment que chez les urbains. Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord, il y a des ruraux qui aujourd'hui se battent dans ces villes où il y a justement de la corrida pour dire bah non, on n'en veut plus chez nous. Donc tout ça est un peu tordre le cou à ce qui se passe en réalité. Donc lui il dit que donc il y a pas le débat comme il y a dans les médias ou au niveau national. Nous sommes face à un clivage territorial, explique-t-il, entre ceux qui vivent leur passion librement sans jamais rien imposer à personne et ceux qui voient la tauromachie par un petit bout de la lorgnette à travers des vidéos sortes de leur contexte. Alors moi, quand on met à mort un taureau, j'ai jamais compris comment on pouvait le sortir de son contexte.
Ouais, parce que le but, c'est de le mettre à mort. Hein.
L214 et PETA, là, ils ont refait des vidéos où la mise à mort est bien filmée de près et on voit bien la souffrance animale. Mais enfin, voilà, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc lui, il explique hein, que ce qui se passe dans l'arène n'est que la conclusion d'une culture beaucoup plus large, immensément respectueuse du bien-être animal.
Lui, il trouve que tuer les animaux, c'est les respecter.
Mais il assume, hein. Donc pour lui, il n'est pas pertinent de mettre, je le cite, sur un même pied d'égalité son chien ou son chat de compagnie avec un taureau de combat à qui nous avons permis de conserver sa nature profonde, l'aspect sauvage et la combativité. C'est le même argument que Dominique Valmary tout à l'heure, vous avez bien entendu.
Ils ont qu'à les laisser sauvages dans la nature en Camargue et puis sans les tuer et ils auront leur nature sauvage aussi, hein.
Voilà, donc en fait, eux, ils répondent. Hein, donc, on apprend dans 20 minutes que la fédération a publié une vidéo montrant une jeune vétérinaire éleveuse de taureaux qui explique son amour pour la corrida. C'est comme à la clashasse, on aime bien nous mettre des femmes comme ça. Vous voyez, nous, on porte une autre cause animale, paraît-il. Non, mais c'est marrant hein, quand même, à un moment, comment on veut, du côté des conservateurs, montrer qu'il y a le sexisme n'est pas le même, voyez, puisqu'on peut tout porter. En tout cas, bon, du côté de Laurent Jaoul, on explique donc qu'il est allé jusqu'à l'Assemblée nationale pour défendre la corrida, la tauromachie, puisque lui, il souhaite défendre les traditions de notre pays, la chasse, les chasses traditionnelles, la course camarguaise et la corrida. Enfin, je vous laisse un petit blanc parce que, évidemment, chasse et corrida, c'est dans la même phrase, hein, bien évidemment. Et la chasse traditionnelle, là, ça m'inquiète.
Ouais, c'est les trucs où, à la glu, les machins.
Ah, bah, c'est même,
là,
c'est les mêmes. Ouais, ça m'inquiète toujours. La tradition, elle a bon don. Alors, lui, donc, il dit bien sûr, on peut encore défendre la corrida, mais je suis aussi parfaitement conscient que ça se restreint avec le lobby écologiste.
Ouais, il y a un lobby écologiste, soyons forts.
Voilà, donc, lui, il explique aux opposants. Laurent Jaoul, hein, de maire de Saint-Brest, je vous rappelle. Aux opposants, je réponds que s'ils n'aiment pas la corrida, ils n'ont qu'à pas y aller. Moi, par exemple, je n'aime pas les combats de boxe. Ce n'est pas mon truc. Je n'y vais pas. Vous savez, dans une corrida, le taureau, il va au combat. Il a plus de chances de s'en sortir que celui qui part à l'abattoir. Voilà, donc merci.
C'est pas faux sur la viande à l'abattoir.
Je remercie 20 minutes pour ces trois témoignages valeureux de pro-corrida. Je trouve que ça donne du grain à moudre pour tous les anti. Merci. Ouais,
merci. Alors, on va parler d'écologie, puisque en ce moment, à l'autre bout du monde, il y a la COP27, où notre magnifique président, Monsieur Emmanuel Macron, est arrivé tout de vert vêtu pour défendre son bilan écologique et dire que lui, à lui tout seul, il sauvait la planète. Ah bon, il fait son show en racontant que la France mettait en œuvre un vrai programme de protection de l'environnement. et patatras, en même temps, on a plein de méga projets pourris qui détruisent l'environnement. Bon, il n'en parle pas là-bas, hein, parce que là-bas, il espère que les gens ne le savent pas. Mais nous, on le sait. Le dernier en date qui est sorti, c'est en Guyane que ça se passe, un projet de centrale électrique qui va détruire 75 hectares de forêt dans un parc naturel régional. Ah là là, d'un seul coup, c'est moins écolo. Pourtant, ils trouvent des excuses écolo. Alors il y a un gros combat hein, mené notamment par des Amérindiens, parce qu'il y a des Amérindiens qui habitent dans ce coin-là, les Kalinas, qui s'opposent à l'implantation de cette centrale électrique, qui est à proximité, qui est dans leur forêt et à proximité de leurs habitations. Alors c'est porté par une société qui s'appelle Hydrogène de France, qui porte ce projet en disant que c'est un projet innovant et non polluant, car ça mêlera un parc photovoltaïque, une unité de stockage d'énergie sous forme d'hydrogène, enfin l'avenir écolo quoi, tu vois, le truc vert, hein, l'électricité verte pour 10 000 foyers en Guyane, tout ça c'est génial. Sauf que donc en dehors des Amérindiens qui voient ça d'un mauvais œil parce que ça bouffe leur forêt, il y a aussi des écolos locaux, hein, le groupe national de surveillance des armes notamment, et son fondateur qui s'appelle Thomas Braille, qui dit, je cite, « Ce projet a déjà de graves conséquences environnementales sur le parc naturel régional de Guyane, puisque 15 hectares de forêt ont d'ores et déjà été dévastés sur les 75 prévus en destruction pour la construction de cette centrale. » Il rappelle aussi que ça va impacter, voire faire disparaître 150 espèces, que ça aura un impact social important, notamment sur les droits des Premières Nations, donc ces fameux Amérindiens Kalina. Et pourtant, la France a signé et s'est engagée à respecter les Amérindiens. Mais ça, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Et pendant ce temps, donc Emmanuel Macron défend son écologie à Sharm el-Sheikh, en faisant de grandes promesses sur la biodiversité, la préservation des fonds marins, etc. Donc, en totale contradiction avec la réalité que l'on vit tous les jours en Guyane ou en France métropolitaine. Il en rajoute, bien sûr, une couche sur le développement des énergies renouvelables, alors que la France est le pays le plus largué d'Europe par rapport aux promesses qu'on avait faites. Hein, on est vraiment à la rue totale. Et bon, il a rajouté une couche sur le nucléaire, parce que, bien sûr, quand il va là-bas, un truc est lui défend le nucléaire, hein, malgré les impacts négatifs incommensurables du nucléaire, de la dangerosité et des déchets donc nocifs pendant 100 000 ans. C'est à l'échelle quand même de la vie humaine, c'est important, 100 000 ans. Bon bref, il y va avec ses mensonges, ses manipulations, comme d'habitude. Mais c'est pas la seule attaque de Macron et de ses amis contre la planète et contre notamment celles et ceux qui la défendent. Puisque le ministère de la Justice a lancé une énorme et grosse nouvelle offensive contre les militants écologistes parce que ce qu'ils veulent, ils parlent de ce principe-là en fait, ces gens, c'est que quand il n'y aura plus de militants écolos parce qu'ils seront tous en tôle, il n'y aura plus de dénonciation de l'attitude destructrice du gouvernement et de Macron, donc ils pourront vanter encore plus leur fausse politique écologique à l'étranger. Donc on a appris par Mediapart mardi dernier, on était le 15 novembre, la nouvelle circulaire du ministère de la Justice, qui était, elle, datée de quelques jours avant, du 9 novembre, qui prévoit d'intensifier la répression juridique à l'encontre des militants écologistes. Donc une grosse offensive, en fait, contre le mouvement de défense du climat. Alors ça vise notamment les militants et les militantes contre les projets d'aménagement du territoire. Alors bien évidemment, hein, tout le monde a en tête ce qui s'est passé lors des différentes luttes, notamment à Sainte-Soline, contre les projets de méga-bassines, hein, de prélever l'hiver dans les nappes phréatiques, qui sont même pas pleines de l'eau pour la mettre l'été dans des cultures inutiles comme celle du maïs par exemple. Donc voilà. Donc cette circulaire montre vraiment la volonté du gouvernement d'attaquer sur un terrain juridique manifestations écolo et les militants et militantes écologistes. Alors il y a trois grands axes. Hein. Le premier axe de cette circulaire repose sur l'arsenal juridique dont dispose déjà l'État. Il n'y a pas besoin de nouvelles choses pour criminaliser les manifestants et les manifestantes. Donc la circulaire rappelle, hein, tous les outils qui sont issus des différentes lois répressives de de ces dernières années, notamment la loi séparatisme et la loi de sécurité globale. Donc ces deux lois les plus récentes qui permettent d'avoir accès à un arsenal pour attaquer toutes les résistances à tous ces méga projets qui détruisent la planète. Dans la directive, dans la circulaire, il y a la volonté de mettre en place une réponse pénale systématique et réactive, c'est ce qui est écrit. Ça veut dire qu'en fait, il faut que il y ait des attaques en justice tout de suite pour faire passer les militants et les militantes en comparution immédiate ou en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Pourquoi ? Parce que ces procédures pénales simplifiées, en général, ne permettent pas de se défendre correctement et les militants et militantes sont systématiquement quasiment condamnés avec des peines relativement importantes. Donc c'est l'idée. Voilà. Et la circulaire précise aussi qu'il faut inscrire les militants et militantes incriminés dans les dossiers de lutte écolo. Il faut les mettre dans les fichiers sur les personnes recherchées. Comme ça, ils pourront leur interdire de se déplacer, etc. Tout ça, toutes ces lois répressives, ces fichiers, ça sert à attaquer les résistants, les manifestants, les écolos et bien sûr les migrants, les migrantes hein, qui prennent cette répression grâce à ces lois répressives. Alors, la circulaire de Dupond-Moretti vise explicitement hein, les militants et les militantes, puisque c'est écrit en gros contre les projets d'aménagement du territoire. Donc il y a une vraie idée, et c'est relayé. Hein, Darmanin a parlé d'éco-terrorisme, Sonia Backès, qui est secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, elle a parlé d'extrémistes, des exactions toujours plus radicales encore, toujours de la part de cette secrétaire d'État. Il y a le chef de la délégation des CRS de l'agglomération parisienne, Olivier Bagouz, qui a dit que c'était les nouveaux black blocs verts. Lui, il savait pas que black ça veut dire noir en fait, mais bon, voilà. Il y en a d'autres comme ça. En fait, tous ces gens qui collaborent avec la destruction de la planète, qui eux-mêmes sont des criminels en faisant pas de loi protégeant les Françaises et les Françaises qui respirent de l'air pollué, par exemple, si on prend la pollution de l'air, 40 000 morts chaque année en France à la pollution de l'air, ils font rien contre. Ce sont eux les criminels, mais ils criminalisent la résistance. Donc c'est l'idée qui est portée par cette nouvelle directive de Dupond-Moretti, mais voilà, approuvé par Darmanin et Macron et compagnie.
Allez, je termine par... j'ai commencé avec un sujet qui me tenait à cœur, qui me soulève toujours beaucoup d'émotions entre tristesse et colère, et je termine par un sujet qui me tient toujours aussi à cœur avec les mêmes émotions, tristesse et colère. Ce sont les élèves à la rue qui chaque année sont soutenus par le collectif Jamais Sans Toi, qui organise un nouveau rendez-vous devant la préfecture demain à 18h, donc en soutien à ces élèves et ces familles sans hébergement. C'est tout le temps, je veux dire, bon, chaque année, chaque saison, chaque rentrée scolaire et chaque hiver, le collectif est obligé de se battre pour faire héberger ces élèves. Et évidemment, ça amène à des occupations d'école, ce qui est encore le cas, puisque là, il y aurait, d'après le collectif Jamais Sans Toi, qu'on croit les yeux fermés, 240 enfants sans hébergement actuellement. On a par exemple l'école Michel Servet, donc c'est sur le premier, 8 enfants qui sont mis à l'abri grâce à une occupation d'école, donc 8 enfants avec leur famille. On a l'école Jean-Pierre Veillet qui est dans le 7e, qui grâce à une occupation a permis de mettre 3 enfants et leur famille à l'abri. On a l'école Delorme avec 2 enfants et leur famille qui ont pu aussi être hébergés. L'école Berthelot avec un enfant et sa famille. L'occupation de l'école Alix a permis de mettre 4 enfants et leur famille à l'abri. On a aussi Gilbert Dru, le collège dans le 3e, qui peut mettre 2 élèves et les familles à l'abri. On a à Villeurbanne l'école Camus qui a mis 2 enfants à l'abri. L'école Nigritel Noir, toujours à Villeurbanne, qui a accueilli 3 enfants grâce à une occupation. On a l'école Renan avec 8 enfants grâce à une occupation aussi et le soutien évidemment des équipes pédagogiques. Et puis l'école Berthelot aussi a mis un enfant et sa famille à l'abri. Donc ça fait toujours de combats année après année, hiver après hiver, pour ces enseignants et les familles des autres élèves qui se battent pour qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue avec leur famille. Et pourtant, chaque année, il y a toujours autant d'enfants à la rue. C'est absolument... un scandale. Là aussi, il y a des obligations légales qui sont pas respectées et il y a une solidarité quand même extrêmement importante dans ces écoles pour arriver à occuper les lieux, pour arriver à héberger les lieux, puisqu'il faut savoir que dans certaines écoles, il y a des chambres d'hôtel qui ont été payées, puis à un moment, on manque de sous. Donc voilà, renseignez-vous si vous êtes à côté de ces écoles pour savoir comment ça se passe. Il y a des goûters souvent qui sont organisés.
Des goûters solidaires, oui.
De solidaires, par exemple, à Michel Servet à 17h demain. Avant donc le rendez-vous à 18h devant la préfecture, il y a un goûter solidaire. Donc voilà, il y a toujours des moyens de participer, ou ne serait-ce que de parler tout ça autour de vous pour qu'il n'y ait plus jamais d'enfants à la rue.
Voilà, il est bientôt 20h d'ici quelques secondes. On se quitte, on se retrouve la semaine prochaine pour le Canu Info du jeudi, peut-être demain à 19h un Canu Info du vendredi. Et là, on vous laisse en compagnie de l'émission Contre toutes les prisons, la petite cuillère.
Ciao.
Bye bye.